que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, comme tous les débuts de mois, et avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour Jean-Pierre.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur à l'école d'économie de Marseille, ex-Marseille. On vous retrouve également au CEPI, un des grands think tanks économiques parisiens. Vous êtes chercheur associé. De 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques au sein de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous avez publié en 2018 un livre, « Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ?» aux éditions Atlante, qui accumule les prix, deux en particulier, le prix du jury Turgot, qui est remis au ministère français de l'économie et qui récompense les meilleurs livres d'économie financière de l'année. Vous vous êtes également vu remettre, il y a peu de temps, le deuxième prix du meilleur essai économique par vos pairs de l'Association française de sciences économiques. Alors, félicitations Gilles Dufresneau.
Merci beaucoup.
Vous m'avez confié, Gilles Dufresneau, en préparant cette émission, que ce livre dont nous allons parler, reparler d'ailleurs, puisqu'on l'a déjà fait une fois dans cette émission, que ce livre était né sur les antennes de RFI d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ?
Oui, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vous aviez fait une émission sur la pauvreté, oui, à laquelle j'avais été invité, et ce livre était en pleine écriture. Et vous aviez terminé l'édition en disant, voilà, il y a un livre qui est en train d'être écrit et qui cherche éditeur. Et en rentrant chez moi, j'ai reçu des propositions de personnes qui ont dit, on a écouté votre émission et on souhaiterait, si vous le souhaitez, publier le livre. Alors, j'ai pas répondu tout de suite, mais voilà, j'ai fini par répondre. Donc, merci RFI d'une certaine façon.
Alors, au cours de cette émission, nous allons parler de ce livre, bien sûr, mais surtout, au-delà de ce qu'il contient, nous allons vous demander de nous dire quel regard vous portez sur les économies africaines aujourd'hui. Et nous rejoindrons nos correspondants en Éthiopie, en Côte d'Ivoire et à Kigali au Rwanda. Avant d'aller au fond des choses, mais c'est une manière de le faire, quelques questions de Julien Clémenceau sur votre parcours personnel, Gilles Dufresneau.
Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Vous avez grandi au Togo avant de venir en France faire vos études supérieures. La passion de l'économie, vous en avez en quelque sorte hérité de votre oncle, Georges Etnard, qui est l'un des premiers économistes de la Banque africaine de développement. Qui est Georges Etnard ?
Alors Georges Etnard, c'est mon parrain, c'est mon oncle, qui a fait partie des premiers Africains qui pensaient qu'il était important de construire une banque de développement au service de l'Afrique, donc la Banque africaine de développement, et donc qui était passionné par ça, qui était un macroéconomiste et qui vraiment avait à cœur de mettre la banque au service du développement des économies africaines.
Et voilà. Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur l'évolution de cette institution ?
Alors, le même. En fait, on a de temps en temps l'occasion de discuter. Lui, c'est un éternel optimiste. Quand parfois, moi, je lui dis, oh, l'Afrique, ça va pas toujours, ça va pas très bien, etc. C'est quelqu'un qui est extraordinairement optimiste. Il vit en Côte d'Ivoire. Alors, je lui dis, la Côte d'Ivoire, ça va pas assez vite. Il me dit, mais si, mais tu te rends pas compte. Aujourd'hui, on a de moins en moins de pauvres, etc. Donc, il est plutôt optimiste de nature. Donc, il a un regard.
Il a quel âge ?
Il a vers les 80 ans. Donc, voilà.
Encore c'est quelqu'un un jeune homme.
C'est quelqu'un qui a de la bouteille, disons.
Alors, entre 2004 et 2008, Jean-Pierre le rappelait, vous avez été conseiller de deux commissaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Était-ce une manière d'apporter votre contribution au développement du continent qui vous a vu naître ?
Oui, absolument. C'est que, vous savez, je suis chercheur, enseignant-chercheur, mais pour moi, l'économie, c'est aussi quelqu'un qui doit, à un moment donné, aller un petit peu se frotter au terrain. J'ai eu cette opportunité avec donc le ministère des Affaires étrangères d'ici, puisque qui m'a nommé comme conseiller, en fait, de deux commissaires à la Commission de l'UMOA. Et c'est extraordinairement intéressant parce que on peut voir toucher du doigt la manière dont, finalement, ce que nous avons dans nos modèles économiques, comment est-ce qu'on peut les intégrer pour à une réalité, quoi. Donc, pour moi, c'était effectivement très important. Et ce sont vraiment... J'ai passé 4 ans qui ont été de 4 très belles années.
Voilà. Est-ce que ça a changé, votre manière de voir l'Afrique ?
Alors, ça n'a pas changé ma manière de voir l'Afrique, mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est que à chacun son métier, c'est-à-dire que les politiques... eux sont confrontés à des contraintes et donc des politiques doivent prendre des choix. Les chercheurs, les conseillers, etc. ont une plus grande distanciation, donc eux ne sont pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais pour présenter l'éventail des solutions. Donc ça n'a pas changé mon regard, mais ça m'a permis en revanche de me rendre compte qu'il était important d'avoir plusieurs regards. Le regard de celui qui prend la décision, qui va au charbon, si on peut dire ça comme ça, et puis le regard de ceux qui disent un petit peu, qui donnent une vision un petit peu plus scientifique, on va dire ça comme ça.
Pour partager votre pensée, une autre manière, ce serait de le faire avec des étudiants africains, et vous pourriez enseigner sur le continent, pourquoi pas à la faculté des sciences économiques de Lomé, où votre ami Kako Nubuko a donné les cours mi-avril. Pourquoi vous ne le faites pas ?
Alors, vous savez que moi, je trouve qu'il faut sortir vraiment de ce cliché. Les étudiants africains sont partout dans le monde. Bien sûr, ils sont dans les facultés africaines, mais beaucoup sont aussi à l'extérieur. Nous, parmi les étudiants que nous recevons, il y a énormément d'étudiants d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone, d'Afrique lusophone. Et donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, les étudiants sont partout. Et mais si j'ai les opportunités d'aller enseigner, faire des séminaires en Afrique, bien sûr, naturellement que j'irai. J'ai d'ailleurs été invité. Il est possible que j'y aille prochainement. Voilà.
Mais vous avez été invité où ça ?
Au Cameroun, puisque j'ai des collègues, ils sont au Cameroun et donc qui souhaitaient que je vienne faire quelques petits cours à leurs étudiants de doctorat. Affaire à suivre.
Mais... Gilles Dufresneau, vous faites allusion à la présence d'étudiants africains de toute l'Afrique à Marseille en particulier.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont extrêmement affectés sur le plan économique, sur le plan de leurs finances personnelles, par la décision des autorités françaises d'augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers en France ?
Alors attention à ça, parce que si vous voulez, il y a des effets d'annonce. En fait, si je peux répondre de façon pas exhaustive, mais un petit peu... le coût, si vous voulez, la France est un des pays qui subventionne l'éducation pour les étudiants nationaux et pour les étudiants étrangers. Et si vous comparez par rapport aux autres pays du monde, ce que l'étudiant paye, qu'il soit étranger ou qu'il soit français, ce qu'il paye est très en deçà du coût effectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'arrête pas de dire que les conditions de travail des étudiants se sont détériorées, qu'il faut refaire les infrastructures, des bâtiments, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement faire peser la charge sur le budget de l'État. Les bénéficiaires, en quelque sorte, doivent aussi contribuer. Alors, sur cette affaire d'augmentation des droits d'étudiants, qu'est-ce qui a choqué ? Ce qui a choqué, c'est pas tellement le montant, parce que pour un étudiant de M2, c'est de l'ordre de 3 000 euros. 3 000 euros, si vous comparez ça à ce que font payer d'autres universités en Angleterre, en Italie, etc., ce n'est rien. Mais ce qui a choqué, c'est le fait que c'était fait brutalement, qu'on soit passé de 300 à 3 000 euros. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup d'universités, à l'heure où je parle, font des exonérations aux étudiants. Ça veut dire que si vous habitez Bamako, vous habitez le Sénégal, vous voulez venir étudier en France, eh bien, on vous dit, voilà ce que ça vous coûterait, donc 3 000 euros, et l'université vous fait une exonération, et donc vous payez en réalité beaucoup moins. Donc, moi, je suis très attentif, puisque, évidemment, je suis universitaire, à bien faire la différence entre ce que payent les étudiants, effectivement, et puis ce qu'ils pourraient payer, on va dire, si on appliquait ce qui était décidé.
Alors, Gilles Dufresneau, on va entrer, en quelque sorte, dans le dur de l'émission, avec une question de Julien Clémenceau sur l'événement économique, en théorie, de la semaine, la zone de libre-échange continental qui entre en vigueur en ce moment.
La zone de libre-échange continental, donc la ZLEC, est entrée en vigueur théoriquement le 30 mai. Carlos Lopez disait que c'était peut-être l'événement le plus important depuis la décolonisation pour le continent. Est-ce que c'est un modèle qui peut marcher pour l'Afrique ?
C'est un modèle qui peut marcher à une condition, c'est que il existe d'autres zones déjà de libre-échange sous-régionales. À condition que ça favorise de façon extrêmement importante, beaucoup plus importante que ça ne l'a été par le passé, le commerce entre pays d'Afrique. comme vous devez le savoir, c'est que certains pays n'ont pas encore adhéré. Le Nigeria, par exemple, est un petit peu sur la défensive. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit absolument certain que c'est bon pour l'Afrique. C'est-à-dire que il faut absolument éviter, par exemple, les phénomènes de détournement de commerce, ou par exemple, c'est pas une réalité, mais c'est un exemple, je pourrais habiter le Bénin, être un importateur de riz qui viendrait du Vietnam, de la Thaïlande, et puis ensuite faire commerce de ça au Nigeria ou dans d'autres pays. Bon, donc il y a des questions
très... C'est pas tellement éloigné de la réalité. Hein.
Oui, justement, mais bon, pour ne froisser personne, je préfère le retenir comme exemple. Donc, il y a des questions très importantes sur l'origine des produits. Donc, ça, c'est le premier point qui n'est pas complètement réglé. Et puis, deuxièmement, le point important, c'est que dans ce qui freine le commerce entre les pays africains, parce que là, on parle beaucoup de suppression des droits de douane, etc., il y a aussi des barrières non tarifaires. Il y a des problèmes de logistique. Donc, il faut aussi, il y a des problèmes liés à la bureaucratie, aux frontières, etc. Donc, ça peut fonctionner, mais à condition qu'il y ait aussi des réformes en ce qui concerne notamment les barrières non tarifaires. Mais c'est vrai que c'est un grand événement. Le grand événement, c'est que dorénavant, les pays, au lieu de dire, ben voilà, je suis au Togo, je suis au Bénin, je suis en Côte d'Ivoire, je veux exporter aux États-Unis, je veux exporter en Europe, eh bien, ils ont là ce grand continent sur lequel ils peuvent exporter. Donc c'est ça la chose qui est un petit peu nouvelle.
Dans le livre que je citais tout à l'heure, dont vous êtes l'auteur, Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle, vous écrivez que la balkanisation politique du continent est le principal obstacle à son développement. Fin mars dernier, David Bachet, journaliste au service économique de RFI, était à Kigali pour couvrir l'Africa CEO Forum. Et bien sûr, le futur lancement de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, c'est un acronyme un peu barbare, était au cœur des discussions. Gilles Dufresneau, écoutez ce reportage de David Bachet que RFI avait diffusé alors. Vous réagirez après.
Incontournable en Afrique, Bolloré Logistics revendique 3 milliards d'euros d'investissement dans les ports du continent au cours des 10 dernières années. La société remporte presque tous les appels d'offres du secteur, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais pour relier les ports à l'intérieur du continent, les difficultés sont permanentes. Thierry Ehrenbogen, directeur général adjoint de Bolloré Logistics.
Quand vous arrivez dans un pays côtier, sur le port, vous devez faire une déclaration en douane qui ensuite va générer à la frontière d'un autre pays l'apurement de cette déclaration en douane et puis la création d'une autre déclaration en douane et ainsi de suite. Mais ça prend systématiquement beaucoup de temps. Les transporteurs, au lieu de mettre 3-4 jours pour faire 2000 km, peuvent mettre 10 jours.
Supprimer les frontières douanières permettrait aux entreprises de tirer un trait sur ces difficultés. À condition que les gouvernements respectent leurs engagements. Car des zones de libre-échange, il en existe déjà à l'échelle sous-régionale. Amadou Diallo dirige la branche Afrique-Moyen-Orient de DHL, qui revendique la première place mondiale pour le transport et la logistique.
Je parle de la CEDEAO et des difficultés d'aller de Dakar à Bamako. Je parle de East African Community et la difficulté qui a opéré en Tanzanie. On est supposé avoir des mouvements de marchandises libérés, mais quand vous bougez des marchandises en camion du port de Dakar à Bamako, de Ghana à Burkina Faso, on se fait arrêter tellement de fois par les policiers qui contrôlent, par les douaniers qui contrôlent. Si vous avez déjà un accord qui a été signé avec 4 pays, essayez d'implémenter celui-là plutôt que d'aller signer de nouveaux papiers.
L'intégration africaine, Amadou Diallo la prône. Mais sur le projet de ZLEC, il préfère prendre de la hauteur.
Un des challenges qu'on a en Afrique, c'est la possibilité pour les avions de voyager entre les différents pays. Passer de Dakar à Maurice, vous êtes des fois obligé de passer par Paris. De Luanda à Lagos, vous êtes des fois obligé de passer par Nairobi, ce qui n'est pas logique.
Les freins, ils sont politiques ou est-ce que ce n'est pas tout simplement les compagnies aériennes qui n'y trouvent pas leur intérêt économique?
On a 54 pays. Chaque pays veut avoir une compagnie aérienne. Ça ne peut pas avoir de business case. On doit avoir des compagnies aériennes qui travaillent au niveau régional. Ça relève de la responsabilité de nos dirigeants africains. C'est des trucs qui sont faciles à implémenter pour eux.
Ça, c'est prévu par la zone de libre-échange?
C'est prévu, mais je ne sais pas quand est-ce que ça sera implémenté.
L'objectif de la zone de libre-échange continentale est de faire passer de 15 à 25% le commerce interne à l'Afrique en l'espace de 10 ans.
Un reportage donc signé David Bachet, du service économique de RFI. Gilles Dufresneau, balkanisation politique, balkanisation économique?
C'est exactement, ça illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire, bien évidemment. C'est que, il faut différencier. Ça veut dire simplement qu'il faut différencier, en fait, la libéralisation des jurés, c'est-à-dire celle qui est annoncée sur le papier, et puis ce que l'on constate sur le terrain. Lorsque j'étais à la commission du mois, on parlait déjà de ces problèmes. Il y avait un commissaire qui était spécialement chargé de tout ce qui concernait le commerce, et c'était déjà un vrai problème. Les problèmes de logistique, les problèmes de dédouanement, du temps, de transport, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, c'est la réalité. Il y a, à mon avis, c'est peut-être le cœur pour que cette zone fonctionne. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ce dont on se rend compte, bon, on dit souvent que l'Afrique, quand on considère le commerce mondial, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est très faible. Mais pour une raison qui est assez finalement logique.
C'est de l'ordre de quoi? De moins de 5%?
Oui, alors moi je vais très très généreux, je dirais qu'on est en dessous de 10%, on est très en deçà, mais disons très en dessous de 10%, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour une raison qui est très simple, c'est que si vous regardez en fait pourquoi est-ce que l'Europe, pourquoi est-ce que l'Asie, pourquoi est-ce que l'Amérique a un poids plus important dans le commerce mondial, c'est d'abord parce qu'ils commercent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que c'est le commerce intra-régional ou intra-continental qui fait qu'ensuite vous pouvez peser, avoir un poids lourd dans le commerce international. Donc c'est aujourd'hui l'enjeu de l'Afrique, c'est-à-dire arriver à convaincre les pays qu'il faut sortir d'une logique nationale. Donc le problème important, c'est pas que le Bénin ou la Côte d'Ivoire prise indépendamment et augmente leur commerce. Il faut sortir de cette logique nationale pour avoir une logique qui soit régionale. Voilà. C'est ça vraiment qui est très important. Ça peut poser des difficultés politiques parce que certains pays peuvent être désavantagés. Il est clair qu'aujourd'hui, ce type de commerce bénéficie d'abord aux pays qui sont déjà très largement ouverts. Donc plutôt les petits pays et les grands pays, des pays comme le Nigeria, eux on peut comprendre qu'ils sont un petit peu réticents. Mais il faut vraiment sortir de cette logique de balkanisation, en mettant les guillemets, qui est une balkanisation commerciale pour le coup, sans parler de peut-être de la balkanisation politique.
Alors Carlos Lopez, auquel Julien Clemenceau faisait allusion tout à l'heure, donc l'ancien commissaire économique de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Donc Carlos Lopez, dans une interview au Financial Times il y a quelques jours, disait pour que la zone continentale entre vraiment en application, qu'elle soit effective, il faut 3 ans à partir d'aujourd'hui. C'est un peu votre sentiment aussi?
Je pense qu'il faut... Alors, tout dépend de pour le coup, de la volonté politique, de la volonté des acteurs. Ça peut aller extrêmement vite... s'il y a une réelle volonté de faire décoller le continent, s'il y a une réelle volonté de se servir du commerce comme un levier pour éradiquer la pauvreté. Donc ça peut aller très vite, et 3 ans, pourquoi pas. Maintenant, moi je suis plutôt de nature prudente, c'est-à-dire que il y a déjà des accords commerciaux qui existent, et là on se rend compte que parfois la réalité fait que ça met énormément de temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on peut avoir qu'un point de vue prospectif. Hein, mais ce que j'espère, c'est qu'il y aura une réelle volonté politique pour aller très vite. Voilà.
Est-ce que le commerce dont on vient de parler, le développement du commerce, peut aider à réduire considérablement la pauvreté?
Naturellement. Le commerce, il faut avoir quelque chose en tête. Le commerce, ça a pour objectif d'enrichir un pays. C'est pas simplement qu'on échange des biens, etc. C'est qu'on enrichit un pays, et on enrichit un pays parce que vous avez des acteurs. Donc le commerce, c'est pas simplement des accords entre États, ce sont des entreprises, ce sont des personnes qui font du commerce entre eux. Et la différence par rapport à une politique, je sais pas, des politiques conjoncturelles, des choses comme ça, c'est que ça peut avoir des effets structurels. Donc, ça modifie en profondeur la manière d'échanger, ça modifie en profondeur aussi les modes de consommation. Ça veut dire que, si je prends l'exemple d'une serrure, ben voilà, vous allez sur le marché africain, vous avez votre porte qui est cassée, vous voulez mettre une nouvelle serrure, bien vous avez le choix entre prendre une serrure made in Nigeria, made dans d'autres pays. Bon, voilà. Et ça, donc ça veut dire que les pays peuvent échanger, y compris, c'est ce qu'on appelle du commerce intra-branche, y compris des biens qui ont la même nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le commerce permet aussi de monter en gamme. Ça veut dire que vous n'avez pas échangé simplement des matières premières, mais vous allez aussi échanger des biens d'équipement, des produits manufacturés. Donc tout ceci, c'est de nature à agir structurellement sur le niveau de la pauvreté.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Gilles Dufresneau est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Et une question, toujours sur cette histoire, sur cette thématique de la pauvreté de Julien Clémenceau.
Gilles Dufresneau, vous dites qu'en Afrique, une croissance forte ne débouche pas forcément sur une réduction durable de la pauvreté. La croissance inclusive, ça n'existe pas?
Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que la croissance inclusive. C'est une pièce qui a deux faces et souvent on ne voit qu'une seule face. La croissance inclusive, la manière dont on l'aborde habituellement, c'est une croissance qui soit bénéfique pour tout le monde et en particulier pour les plus pauvres. C'est-à-dire que, est-ce que la croissance, on dit souvent, elle est pro-pauvre parce qu'elle permet de faire baisser la pauvreté. Donc ça, c'est une face. L'autre face de la croissance inclusive, donc le mot inclusif veut dire que les modèles de croissance, les ressorts de la croissance doivent venir et du continent. Ça veut dire que la croissance, elle est bénéfique si son origine, elle trouve son origine dans le comportement des acteurs, si ça conduit par exemple à mettre en place des chaînes de valeur avec des produits de l'amont à l'aval qui sont made in Africa. Donc, il y a cette notion d'inclusivité dont on parle beaucoup moins, mais qui est aussi importante. Donc, dans des pays qui ont 5%, 8% de taux de croissance, comme c'est le cas actuellement de la Côte d'Ivoire, ou bon, du Togo, ou du Bénin, 5%, bon, cette croissance-là, il faut faire attention, c'est d'abord une croissance de rattrapage. Ça veut dire que quand ce sont des pays, malheureusement, qui partent de loin, c'est un très bon signe, mais c'est une croissance de rattrapage, et cette croissance-là doit être distinguée de la croissance structurelle, où l'indicateur pertinent, c'est la croissance du PIB par tête. Voilà. Donc, la question importante, c'est est-ce que la croissance que nous observons est une croissance juste qui a des ressorts conjoncturels ou est-ce qu'elle est aussi...
Mais y compris pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui affiche des taux de croissance très importants depuis 2012.
Absolument.
On est encore dans une phase de rattrapage.
Mais naturellement, regardez ce qui s'est passé pour la Chine. La croissance de rattrapage, elle prend du temps. Le point important pour un pays, c'est pas ces taux de croissance à 8%, 9%. Bon, c'est la croissance quand on est en vitesse de croisière. Ça veut dire que quand l'économie sera arrivée à maturité, le taux de croissance de manière constante sera de combien? C'est ça qui intéresse tout le monde. Donc, vous pouvez avoir pendant 10 ans des taux de croissance de 8-9%, ce qui est une très très bonne chose. Et in fine, ce qui compte, c'est la croissance en vitesse de croisière, la croissance au niveau structurel. Donc, bien entendu, pour la Côte d'Ivoire, on est encore dans une croissance, ce qui n'est pas du tout péjoratif, au contraire, mais on est encore dans une croissance de rattrapage et c'est tout à fait normal. Un des indicateurs qui ne trompe pas, donc il y a la croissance, et moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de regarder à quelle vitesse la pauvreté diminue et quel est le taux de prévalence de la pauvreté. Alors, on a fait d'énormes progrès, mais aujourd'hui, on est encore dans une situation où on a à peu près un petit peu moins d'un habitant sur deux qui est en situation de pauvreté. Donc, c'est une croissance de rattrapage, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore complètement fourni tous ses effets.
Continuons à parler de la Côte d'Ivoire, Gilles Dufresneau. En écoutant un économiste ou un financier qui connaît bien le pays, puisqu'il vit à Abidjan, pour Stanislas Zézé, fondateur et PDG de Bloomfield Investment Corporation, première agence de notation financière en Afrique francophone, l'accent doit maintenant être mis sur les PME, les petites et moyennes entreprises locales, en favorisant l'accompagnement et la formation de leurs dirigeants. Entrepreneurs locaux, il est au micro de Lisa Fabian à Abidjan.
Cette croissance est tirée par la majorité des investisseurs étrangers. Les PME locales contribuent de façon très marginale à cette création de richesse, même si elle est créée ici. Donc c'est ce qui va expliquer, par exemple, qu'on a l'impression que ce n'est pas bien redistribué. Quand on crée de la richesse, elle est redistribuée quand ce sont les locaux qui la créent, parce qu'évidemment, ils ont intérêt à réinvestir dans leur pays. Quand ce sont des entreprises, pour la plupart étrangères, qui créent cette richesse, évidemment, elles rapatrient les bénéfices. Ceci dit, cette croissance crée des opportunités, parce que ça permet à l'État de pouvoir justement avoir des fonds suffisants pour pouvoir créer un environnement permettant aux PME de pouvoir se développer.
Mettre l'accent sur les PME, ce serait donc la clé pour une croissance plus inclusive.
Ceux qui sont plus pauvres, évidemment, ont du mal à bénéficier des retombées de ces infrastructures, par exemple. Eux voudraient surtout que l'investissement public soit mis sur des choses concrètes pour eux. Augmenter le SMIC, par exemple, qui est à 60 000 aujourd'hui, qui, à mon avis, pour une économie comme la Côte d'Ivoire, est très bas. Vous allez parler à des entrepreneurs qui vont vous dire « c'est magnifique, toutes ces infrastructures nous facilitent la vie ». Vous allez parler à quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui n'a pas d'entreprise, les routes et les ponts, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est « je vais au marché, la tomate coûte cher ». Plus on aura de PME qui vont créer de la richesse, plus ce niveau de pauvreté va baisser parce que c'est celles-là qui vont réinvestir dans l'économie locale, créer des emplois, peut-être réduire les coûts de vie.
Stanislas Zézé, fondateur et PDG de Bloomfield Investment Corporation, était au micro de Lisa Fabian à Abidjan. Gilles Dufresneau, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit, financer d'abord les PME locales plutôt que accepter ou favoriser les investissements d'infrastructures qui ne bénéficient qu'à une petite partie de la population?
Alors, vous savez que nous avons très récemment, avec une collègue du Japon, fait une étude sur est-ce que les IDE, est-ce que les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, est-ce que ces investissements directs étrangers étaient de nature à réduire la pauvreté ou pas? Parce que souvent, on étudie le lien entre IDE et croissance. Et nous, ce qu'on montre, en fait, dans ce travail, c'est que pas du tout, il n'y a pas d'effet sur la réduction de la pauvreté. Parce que c'est tout à fait ce qui est dit dans le reportage, parce qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement pour l'emploi local, parce qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement pour les entreprises locales. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que le développement, il passe par le développement des PME, c'est-à-dire qu'il passe par le développement de chaînes de valeur locales. Et c'est ça qui bénéficie, effectivement, à la population. Bon.
Qu'est-ce que vous appelez le développement de chaînes de valeur locales?
Le développement de chaînes de valeur locales, ça veut dire tout simplement que c'est le secteur privé local, en particulier les petites entreprises, qui sont à l'origine de la création de valeur.
Par exemple, pour reprendre l'exemple que vous utilisiez tout à l'heure, les fabricants de serrures.
Prenons un cas, notre sein, la fabrication de tomates concentrées. Si vous voulez, en fait, vous avez une agriculture, les Africains cultivent de la tomate, utilisent aussi de la tomate concentrée, comme c'est le cas, par exemple, au Ghana, mais dans d'autres pays aussi. Ben, la tomate concentrée, si elle est fabriquée par une industrie locale, ça donne des emplois à des entrepreneurs, ça donne des emplois à des personnes.
Mais si cette usine est financée par des fonds étrangers au profit d'une entreprise étrangère, elle va quand même créer des emplois sur place, elle va quand même nouer des liens avec des fournisseurs locaux.
Oui, absolument. Mais la réalité montre que c'est pas nécessairement le cas parce que, si vous voulez, l'entrepreneur, lui, son objectif, c'est pas de réduire la pauvreté. Son objectif, c'est de faire des bénéfices et puis éventuellement de les rapatrier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est...
Nous,
c'est les macroéconomistes, disons, qui font du développement. C'est de penser une croissance qui soit inclusive et qui s'appuie sur le développement du secteur privé. Bon, ceci ne peut fonctionner que si, parallèlement, vous avez des États stratèges. Et c'est un petit peu le danger, en fait, du discours que l'on entend. Un État stratège, c'est un État qui dit « oui, nous, moi, je souhaite que le développement du pays passe par l'essor d'entreprises domestiques. Donc, ça veut dire « je veux donner sa chance à tout le monde ». Je veux que un entrepreneur qui a des idées puisse effectivement bénéficier de la concurrence et puis innover, etc. Un des problèmes des pays africains, il est là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un secteur privé qui est potentiellement développé, mais le cadre institutionnel ne favorise pas l'émergence d'un secteur privé parce que, si vous voulez, on ne va pas jusqu'au bout de la concurrence, quoi. Il n'y a pas de mesures efficaces pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Vous avez des oligopoles dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et donc ça, c'est totalement dramatique pour le secteur privé, bien entendu.
Une question de Julien Clémenceau, toujours sur ces affaires de pauvreté et de démographie.
La démographie africaine, elle fait beaucoup parler, elle fait réagir notamment le président Macron qui estime que c'est un frein à la réduction de la pauvreté. Et ce propos, il est partagé par un certain nombre de dirigeants africains, même s'ils ne l'expriment pas toujours publiquement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, sur cette question, vous savez que le propos d'Emmanuel Macron a aussi été mal pris d'un certain nombre de pays africains. C'est bon. En fait, le problème est le suivant. C'est que lorsque vous avez une croissance démographique très importante, la première question, c'est est-ce que il va y avoir un dividende démographique. Ça veut dire, est-ce que vous avez une population jeune, la proportion des 15-60 ans à peu près qui augmente, qui est une force de travail, comment est-ce que ceci peut se traduire par une augmentation de la production? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est qu'il y a une variable, et je reviendrai là-dessus, il y a une variable clé qui est les taux de fertilité. Donc, les choses sont assez simples. Normalement, lorsque vous avez une population en âge de travail qui augmente, c'est une force de travail Donc ça doit contribuer à augmenter le niveau de production. Mais il y a des conditions qui ne sont pas toujours vérifiées. La première condition, c'est le capital humain. Malheureusement, qui fait encore défaut pour différentes raisons. Si vous n'avez pas une population qui est éduquée, si vous n'avez pas des gouvernements qui investissent massivement, qui font un choc dans l'éducation, pas simplement dans l'éducation primaire, mais aussi dans l'éducation secondaire et dans le supérieur, comme ce que font les pays asiatiques. Si vous n'avez pas ça, eh bien, en fin de compte, vous faites naître des pauvres. Ça veut dire des personnes dont le capital humain ne va pas s'améliorer et les économies ne vont pas nécessairement en bénéficier. Donc ça, c'est important. Le deuxième levier important, c'est les taux de fertilité. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Si vous comparez l'Afrique subsaharienne avec l'Afrique du Nord, en réalité, ce qui se passe, c'est que les pays d'Afrique du Nord sont en train de finir leur transition démographique. Ça veut dire que là, il y a un ralentissement très important de la croissance de leur démographie. On estime que depuis 2010, la courbe s'est inversée. Pour les pays d'Afrique, ça continue. Et donc, la question importante, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir le taux de fertilité? Il y a deux points de vue. Il y a le premier point de vue, qui est le point de vue des Asiatiques, des Indiens, etc., qu'il faut dire qu'il faut le faire de force, parce que si on compte sur les ressorts socioculturels, c'est très compliqué, parce que les gens ne comprennent pas d'avoir moins d'enfants, etc. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Ce que l'on remarque, et c'est quasiment une loi humaine, c'est que quand une femme est éduquée, ça veut dire qu'elle a des diplômes, quand elle participe au marché du travail, de façon instinctive, elle souhaite avoir moins d'enfants. Donc, si vous voulez régler ce problème de la démographie, ça passe par une politique du genre. C'est-à-dire que les politiques du genre dont on parle, c'est pas du tout idéologique. Ça passe par une politique du genre, ça passe par le fait d'encourager le fait que les jeunes filles puissent aller à l'université, puissent bénéficier de l'éducation secondaire. Donc ça, c'est très important. Et ça passe aussi par le fait d'encourager l'accès des femmes au marché du travail. Ça peut se heurter à des schémas socioculturels où la femme est cantonnée à un certain nombre de rôles. Mais voilà, moi, c'est ce que je serais tenté de dire. Le point de vue du président, on peut le prendre de...
Macron.
Du président Macron, on peut le prendre de deux points de vue.
Alors, c'est une question, Gilles Dufresneau, qui peut être politique, mais c'est à l'économiste que je pose la question. On a vu... vous le signaliez que les printemps arabes, d'une certaine manière, avaient eu un impact direct sur le taux de natalité. C'est une révolte de la pauvreté, ces printemps arabes. C'est pas seulement une révolte politique et pour plus de démocratie. Comment expliquez-vous qu'en Afrique subsaharienne, les pauvres ne se révoltent pas? Est-ce qu'il y a une réponse économique à ça?
Alors, les pauvres se sont révoltés. Ce qui est intéressant, c'est notre capacité parfois à oublier. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, par exemple. Ça, c'est arrivé dans les années 90, dans un certain nombre de pays africains. Ça a donné lieu à ce qu'on appelait des conférences nationales. Et là, la révolte, elle était politique. Ça veut dire que, évidemment, un pauvre, il souffre, mais quand, en plus de ça, il a le sentiment d'être que rien ne peut être fait pour lui, pour des raisons politiques, parce qu'il est marginalisé, il va se révolter. Donc, je rappelle quand même que les démocraties qu'on a aujourd'hui, au Ghana, ce qui s'est passé au Bénin, peut-être qu'on en parlera un peu, mais le Bénin qui a vu naître une démocratie avec ce qu'a mis en place Kérékou, etc., c'est parti de révolte. C'est parti de révolte parce que ce que l'on sait, c'est que le développement économique est lié à la liberté politique aussi. Parce que le développement économique, il vient d'abord des gens sur le terrain.
On va parler d'un autre exemple de pays qui cherche à marche forcée à se développer. Voilà maintenant 15 ans que l'Éthiopie s'est lancée dans un processus d'industrialisation, dynamique notamment illustrée par la construction de parcs industriels, des zones économiques spéciales où les investisseurs bénéficient d'exonérations fiscales et d'un coût du travail parmi les plus bas au monde. 6 sites sont terminés, 65 000 personnes y travaillent désormais et 10 nouveaux parcs sont en construction. Pour autant, l'Éthiopie reste un pays à l'économie largement agricole. Le pari industriel n'est pas encore réussi. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Vincent Dublange à Addis Abeba.
C'est une belle réussite, insiste Lélissé Némé derrière son bureau. La jeune femme de 26 ans dirige la société publique de développement des parcs industriels. Mais elle reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour insuffler l'esprit industriel à des populations majoritairement rurales et paysannes.
Nous n'avons pas les compétences, les connaissances et même les comportements lorsqu'il s'agit d'investir dans l'industrie. Changer les attitudes humaines prend du temps. Mais en tant que gouvernement, si nous travaillons corps et âme, nous changerons vite les choses. Parce que nous sommes les derniers arrivés, nous devons y travailler jour et nuit, c'est ce que je pense.
Le ministère du Travail planche sur un salaire minimum afin de fidéliser les ouvriers. Autre piste, construire des logements sur place, une clinique, fournir les repas. Anastasie dirige le bureau Éthiopie de Decathlon. La marque française produit via 4 sous-traitants en Éthiopie, t-shirts, shorts et pantalons basiques.
Tout ce qui va aider aussi à donner la chance aux Éthiopiens de se former, parce qu'on doit aller doucement. C'est un pays où on est en train de construire la compétence industrielle et donc il faut aller doucement, il faut augmenter la difficulté petit à petit. Il y a déjà des challenges au niveau logistique, au niveau... Il faut pas mettre tous les challenges sur la table.
Le gouvernement dit travailler à faire baisser le coût logistique, car malgré ses très bas salaires, entre 25 et 80 euros, l'Éthiopie est toujours plus chère que le Vietnam, selon un acteur. Addis Abeba espère beaucoup de la privatisation du secteur logistique et du soutien de la Chine à travers son programme dit des nouvelles routes de la soie. Pékin a largement financé la première phase des parcs industriels éthiopiens et a récemment promis encore plus pour améliorer l'accès à l'énergie des zones économiques spéciales.
Un reportage signé Vincent Dublanche à Addis Abeba, où il est encore question des investissements étrangers. Une question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Les investissements étrangers en Éthiopie, vous le disiez, ils sont aussi critiqués. On a parlé récemment des très bas salaires de l'industrie textile. Est-ce que les multinationales vont exploiter la pauvreté éthiopienne?
Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais que il y a deux logiques qui se confrontent. Il y a une logique d'abord d'abaissement des coûts. Et donc, les multinationales vont prioritairement délocaliser dans les zones où elles peuvent bénéficier de coûts de main-d'œuvre faibles. Et comme vous le savez, compte tenu de la croissance démographique forte des pays asiatiques, c'est plus du tout intéressant. C'est pas nécessairement intéressant de rester en Asie. Et donc, l'Afrique peut être... bon. Alors, donc, il y a cette logique-là d'abaissement des coûts. Et ensuite, il y a une deuxième logique qui, me semble-t-il, est peut-être plus bénéficiaire au pays, c'est d'essayer de faire de la montée en gamme. On parlait tout à l'heure du rôle très important que la Chine apporte à l'Éthiopie. Vous voyez, on parlait des taux de croissance importants tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, etc. Bon, ce qui est important, c'est que quand vous avez des taux de croissance élevés comme ça, vous ayez en même temps une transformation du processus productif. Ça veut dire qu'on passe typiquement d'économies agricoles à des économies qui sont industrialisées. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer en Éthiopie. Je pense pas que les multinationales exploitent nécessairement les personnes, parce que vous avez aussi des entreprises domestiques du tissu, des entreprises de taille plus modérée qui interviennent. Moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que l'industrialisation puisse s'accompagner d'une augmentation du capital humain, savoir-faire industriel. C'est ce qui est dit dans le reportage et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que finalement ce savoir-faire industriel va progresser, les gens pourront aspirer à avoir être mieux payés, être payés un petit peu mieux.
Donc, Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'école d'économie d'Aix-Marseille, conseiller scientifique auprès du CEPI, l'un des grands think tanks d'économie internationale à Paris. Une nouvelle question de Julien Clémenceau.
Parmi vos sujets d'intérêt, Gilles Dufresneau, il y a la dette des États. Après les annulations accordées par le Club de Paris, on assiste depuis plusieurs années à l'augmentation continue des dettes des États africains. Mais quand on est un pays en développement, c'est naturel de s'endetter.
Absolument. Mais il y a quelque chose qui est dramatique, qui est que si vous êtes un pays, vous avez, comme c'est le cas de pas mal de pays africains, vous avez investi énormément dans les infrastructures, etc., et que pour ça, vous avez été amené à vous endetter, et que malheureusement, votre dette est tellement élevée que vous êtes confronté à des problèmes de crise d'endettement, alors à ce moment-là, plus personne ne veut vous prêter de l'argent, et c'est vraiment considérablement dramatique. Donc, la difficulté des pays aujourd'hui, elle est là. C'est d'ailleurs un sujet de grande inquiétude pour les institutions financières internationales. C'est-à-dire que la plupart des pays africains, à peu près 40% des pays africains qui avaient bénéficié de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, et de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, 40% de ces pays se trouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité de la dette. Ça veut dire qu'il y a déjà des pays qui ne peuvent plus rembourser leur dette, qui sont obligés de la restructurer, le Mozambique par exemple, ou le Congo, bon, notamment. Et vous avez des pays qui s'en approchent de façon, j'allais dire, dangereuse, le Ghana, etc. Donc, le drame, il est là. Le drame, il est que, effectivement, vous avez raison de le souligner, d'un côté, vous avez des investissements très importants à faire, et de l'autre côté, il y a le problème de la dette. D'où l'importance du secteur privé. Ça veut dire que si l'État, qui doit être un État stratège, ça veut dire qu'il doit fixer le cap, qu'il doit donner le cadre, mais si cet État-là arrive à mettre en place un cadre qui permette au secteur privé d'être le moteur du développement, à ce moment-là, ça pèse un petit peu moins sur la dette.
Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, la Chine est un investisseur ou un coopérant loyal ?
Alors, attention, ça veut dire que, vous savez, les Chinois jouent, je veux dire, en termes de théorie des jeux, en termes économiques, avec un horizon qui est le long terme. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Chine aide énormément les pays africains en les aidant à combler leur retard en matière de construction d'infrastructures, par exemple, ou en matière d'industrialisation. Mais en même temps, la même Chine prélève des ressources naturelles. On parle beaucoup des terres rares en Afrique. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et puis, les mêmes entreprises chinoises, le plus souvent, quand elles arrivent, l'emploi ne bénéficie pas nécessairement aux pays africains parce que les gens arrivent avec leurs engins, leur main d'œuvre, etc.
Donc, est-ce que la Chine est un investisseur loyal ? Est-ce que les routes de la soie vont bénéficier au continent africain ?
Alors ça, l'avenir nous le dira, mais les Africains ne doivent pas être naïfs. Les Africains ne doivent pas être naïfs, ils doivent utiliser, parce que la Chine, évidemment, agit dans son intérêt. Elle va pas agir dans l'intérêt des pays africains. Donc c'est aux pays africains de ne pas être naïfs et de bien peser les avantages et les inconvénients. En particulier, on parlait tout à l'heure du problème de la dette. Les macroéconomistes aujourd'hui sont très inquiets parce que effectivement, en même temps que la Chine aide les pays africains, il y a une contrepartie qui est que la dette de ces pays vis-à-vis de la Chine augmente de façon considérable. Je pourrais juste prendre un exemple qui est l'exemple de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous savez que la République démocratique du Congo va de nouveau renouer avec les institutions financières internationales, mais jusqu'ici elle ne le pouvait pas parce que on lui demandait de régler, il y avait un certain nombre de problèmes de restructuration de sa dette vis-à-vis de la Chine. La République du Congo. Bon, donc ça c'est quelque chose qui est important, il faut peser le pour et le contre, il faut surtout pas être naïf. Il faut, pour les pays africains, ne pas être naïfs.
Mais dans ces histoires d'endettement, est-ce que l'un des principaux problèmes n'est pas l'absence de transparence dans le processus et dans la contraction des emprunts ?
Alors, il y a ça. Il y a le problème de gestion de la dette, bien entendu. Ça, c'est évident. Il y a aussi le fait que on voit bien comment pèse la structure des économies. Pourquoi la dette a-t-elle diminué après l'initiative PPTE ? Parce que le monde... Tout allait bien, la croissance économique était bonne et le cycle des matières premières, des ressources naturelles était bien orienté, ça veut dire que les prix augmentaient. À partir du moment où vous avez eu un retournement de ce cycle-là, du cycle des matières premières, et qu'en même temps les pays ont dû continuer à investir, ça les a amenés dans des difficultés. Donc ça montre bien que au cœur du problème, il y a bien sûr la question du management de la dette, mais il y a également la question de transformation du tissu productif des économies. Donc, c'est
Gilles Dufresneau, est-ce que l'Afrique emprunte seulement des fonds à la Chine ou est-ce qu'elle doit aussi lui emprunter un modèle de développement ? Est-ce que l'Afrique doit s'inspirer de la Chine pour se développer ?
Alors, l'Afrique regarde vers la Chine pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, vous voyez... la Chine est un des seuls pays dans le monde qui ait réussi en très peu de temps à faire diminuer de manière considérable la pauvreté chez elle. Donc, les Africains regardent ça en se disant, mais peut-être qu'il y a là une recette à prendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les Chinois, et je dirais de manière plus générale les Asiatiques, offrent aux Africains potentiellement un schéma de développement qui diffère de celui que l'auront vendu les pays européens. Typiquement, si on regarde le modèle, ce que propose l'Europe, c'est un modèle de rattrapage. On parlait tout à l'heure du rattrapage économique, on parlait du rattrapage, et quand vous entendez un certain nombre de chefs d'État, ils promettent à leur population de devenir des économies émergentes, de les faire entrer dans l'ère de l'émergence, etc. Donc ils ont cette idée d'un modèle à rattraper. Les Asiatiques sont pas du tout dans cette optique. Les Asiatiques sont dans un schéma qu'on appelle le schéma d'un économiste japonais, Akamatsu, et qui consiste à dire, mais le développement, c'est quoi? Le développement, c'est monter en gamme. Ça, c'est la première des choses. Le développement, c'est avoir un état...
Monter en gamme sur le plan industriel.
Sur le plan industriel. Ça, c'est le premier point important. Bon. Et donc, ça explique pourquoi est-ce que la Chine, quand elle va dans les pays d'Afrique, met l'accent sur l'industrie. Ça, c'est le premier point. Et le développement, c'est aussi avoir un état stratège. Ça veut dire qu'en même temps que vous mettez en place un état, vous souhaitez faire émerger un secteur privé, vous souhaitez que ce soit le moteur de l'économie, dans le même temps, vous devez avoir un état stratège.
C'est-à-dire bon. Un état régulateur ?
Un état qui soit un petit peu
planificateur,
et puis surtout un état qui pense à l'intérêt collectif. Typiquement, dans ce que dit Akamatsu, c'est que lorsque vous avez une économie qui se développe, il faut lui laisser le temps de mûrir. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, les pays européens, américains et asiatiques se sont développés de cette façon-là. C'est que une toute petite dose de protectionnisme. On n'est pas du tout dans la logique qui est préconisée. Une toute petite dose de protectionnisme pour permettre aux industries naissantes d'avoir le temps de se développer, d'avoir le temps de mûrir, d'avoir le temps de grandir avant d'affronter la concurrence internationale, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et voilà pourquoi moi je suis très content qu'il y ait la nouvelle zone de libre-échange parce que l'idée c'est de casser les droits douaniers au cœur de l'Afrique et peut-être de mettre une barrière tarifaire pour laisser le temps aux industries d'émerger.
Une dernière question dans cette émission de Julien Clémenceau et une réponse pas trop longue, Gilles Dufresneau.
Gilles Dufresneau, une autre façon de voir les choses, c'est peut-être de renouveler le personnel politique au Bénin. Depuis 3 ans, il y a un chef d'entreprise. Nécessairement, il voit les choses différemment des politiciens qui ont fait carrière. Est-ce que ça fonctionne au Bénin ? Quel regard vous avez sur le développement du pays ?
Le Bénin se trouve dans une situation, je dirais, qui est à peu près, sur le plan économique, similaire à ce qu'on a au Togo ou en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un pays qui a une croissance économique aussi de rattrapage plutôt bonne. Sur ce qui se passe actuellement, ce qui interroge les macroéconomies, qui font aussi de l'économie politique, c'est qu'il est très important de préserver les acquis de la démocratie. Le Bénin est une jeune démocratie. Ça a très bien fonctionné. On souhaite que ça continue de fonctionner dans le futur parce que c'est déterminant.
Les économistes s'inquiètent du virage.
Alors, les économistes, ils regardent, c'est-à-dire que on espère que les institutions vont continuer à être propices au développement de la liberté politique, ce qui avait été le cas jusqu'ici.
C'est indispensable au bon développement économique.
C'est fondamental pour le bon développement économique parce que si jamais vous avez un virage, les investisseurs partiront. Ça veut dire que vous aurez tellement d'incertitudes que beaucoup d'investisseurs quitteront le pays ou en tout cas ne viendront pas en fait au Bénin.
Gilles Dufresneau, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Cet entretien était absolument passionnant. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster sur vos smartphones via les applications jeuneafrique.com ou Pure Radio pour RFI. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.